itchy, and it's getting well, well sticky.
Chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sans invité, parce que c'est notre deuxième semaine sans invité tout simplement. On en retrouvera la semaine prochaine, je vous le teaserai dans quelques instants en parlant des actualités locales. Vous l'entendez sûrement, ce n'est pas Florian qui présente ce soir, il ne peut pas être là, tout comme Mathéo qui est en pleine révision pour ses partiels, mais quand même une belle équipe autour de moi. J'ai Cédric à ma droite qui comment ça, Cédric? Hop, et le micro. J'ai plus l'habitude de tout gérer. C'est bon.
C'est un coup d'état ça. C'est la jeunesse qui se rebelle.
Non, c'est la censure.
C'est la censure, oui. Ouais. T'as vu comment on nous met au placard, hein?
Exactement.
C'est moche. Et vous l'entendez sûrement qui parle avec Cédric, c'est Alex qui se retourne dans les studios.
Retour d'un habitué, effectivement. Salut Faustin, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien.
Toi, j'imagine que ça va bien avec ce week-end.
Non, oui. Lui parle pas de ce week-end, ça fait très mal aux chevilles.
Ce week-end, c'était quand même un duel fratricide, j'ai envie de dire. Parce que c'est un peu deux de mes équipes préférées qui se jouent. Et dans ces moments-là, je dirais pas que je suis neutre, mais dans tous les cas, je suis content. Et ça va, j'étais content. Je pense que Lyon avait plus besoin de la victoire que le SCO, qui est pour l'instant pas mal.
On y reviendra évidemment dans les actualités locales tout à l'heure. Et le dernier qui est toujours présent, c'est Amaury. Salut Amaury.
Salut Faustin. Et moi, j'étais pas neutre sur ce match-là, malheureusement, ça a pas tourné dans mon sens. Mais j'ai pu contrecarrer ça avec une belle victoire Mao Hand ce week-end. Ça fait plaisir. Parfait. Donc voilà.
On verra si Alex était content pour ton équipe.
Oh bah écoute,
ça gagne. Après on va être content. Au programme ce soir, on va d'abord vous présenter les actualités locales en parlant de basket, du SCO évidemment, tout comme des Ducs d'Angers, du SCO Rugby et d'autres clubs angevins. On passera à la pause musicale et ensuite on enchaînera sur les actualités internationales. On parlera de Ligue des Champions, un petit peu d'Euroleague et aussi d'un adieu, enfin pas totalement d'un adieu, mais d'un au revoir, j'ai envie de dire, en Formule 1. Donc on va commencer sans plus tarder par le basket et l'EAB qui renoue avec la victoire contre Rennes à Jean-Bouin 90-64. Une équipe angevine qui avait fait appel à des jeunes de la Nationale 3 et ça a payé grâce à la large avance qu'a pris le club de l'Étoile dans le troisième quart-temps. Les 12 joueurs de l'équipe ont également pu jouer le match. C'est un troisième carton qui a été très bien géré avec un score de 24-6 qui leur a permis de conclure aisément la fin de match. Et justement, je vous parlais de l'invité de la semaine prochaine qui sera a priori le dernier de cette année 2024. Ce sera un joueur de l'EAB, c'est Mathéo Valton. Voilà un jeune joueur hein, qui est un 2004 qui a rejoint réellement l'équipe première cette saison. Qui viendra dans les studios la semaine prochaine pour nous parler un peu de sa carrière à lui et de la saison de l'EAB. On enchaîne maintenant avec l'UFAB, ça s'est passé un peu moins bien avec deux défaites cette semaine, les deux contre l'ASVEL, la première en Coupe de France 80-69, leur aventure s'arrête donc au troisième tour cette saison et la deuxième défaite était en championnat 84-65, ce qui les fait descendre à la sixième place du classement mais égalité avec les quatre équipes devant elles simplement avec la différence de points. Seul Bourges ne compte que deux défaites et donc seul en tête du classement de ligue féminine.
Bon bilan quand même, presque la trêve, on va dire, de Noël là.
Ouais, bah oui, c'est clair.
Bah, 6 victoires en 9 matchs, ouais, c'est vraiment intéressant parce que ça met une vraie option sur le maintien. Je crois qu'il y a 3 victoires d'avance sur le premier des places pour le play-down. Ouais. Et donc il y a déjà un très très gros boulot de fait. On va dire un bon tiers de championnat.
Ouais, et puis surtout, il y a eu des victoires contre ces équipes-là qu'on ne voyait pas forcément les saisons précédentes à chaque fois.
Bien sûr, bah, le début de saison était vraiment excellent.
Ah, plus les victoires en Europe aussi, mine de rien.
Ouais.
Cette année aussi, qui sont assez importantes. Enfin...
Mais ouais, par contre, c'est vrai que depuis qu'elles sont revenues en première division, en LFB, à chaque fois, la Coupe de France, elles ont un peu de mal. Elles n'ont jamais été très très loin en Coupe de France.
Alors en plus, elles ont pas eu vraiment de chance sur le tirage.
À chaque fois, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois. Je crois que c'est pas la première fois plus qu'elle joue l'ASVEL en Coupe de France. Mais ouais, une saison intéressante pour le FAB.
Bah oui, carrément, on continuera de suivre ça évidemment tout au long de l'année. Un autre club du Maine-et-Loire qui fait une saison très intéressante, c'est Cholet, qui sort à nouveau 2 victoires cette semaine. La première en Coupe d'Europe contre le Portel, 85-62, ce qui leur permet de prendre d'ores et déjà la première place de leur groupe pour la deuxième phase de poule de cette Coupe d'Europe. Ils ont ensuite enchaîné sur une victoire 94-83 contre Strasbourg en Betclic Elite, dont ils restent encore une fois le leader, même s'ils ont un match de retard. Mais Alex, t'as pu suivre.
Mais là c'est exceptionnel ce qui se passe à Cholet, non?
Ah bah là c'est compliqué.
Le Maine-et-Loire domine le basket.
Non mais la saison de Cholet, elle a l'air je suis ça un peu de loin, mais elle a l'air complètement dingue. Enfin là ils sont être premier à ce niveau-là alors que t'as Paris Basket et Monaco et
subir qu'une seule défaite
et puis en Ligue des Champions t'es pas mal. Franchement c'est énorme. Hein.
Et réussir à faire ça en mettant les jeunes sur le terrain en plus.
Ah ouais.
C'est ça qui est fou, c'est qu'on utilise les jeunes, on leur fait confiance. Alors ça a toujours été le cas à Cholet, hein, gros centre de formation on sait. Mais réussir à faire ça en utilisant ces jeunes autant et en leur faisant cette confiance-là, franchement c'est beau et c'est bon pour l'avenir.
Bah oui, c'est clair. Et bah, ça va continuer de gazer, j'espère, de cette manière-là. On l'espère tous. En attendant, on verra comment ça va se dérouler. Pour ma part, j'aimerais bien aller voir un petit match à la MRE. Je vous tiendrai au courant. J'ai vu les dates. Il y a un petit match contre Monaco le 1er mars, il me semble. Donc, ça dure assez longtemps. Mais j'aimerais bien y être.
Ça va être sympa. Les places sont chères à la MRE, par contre. Info, ouais. Pour avoir sa place, en tout cas.
Ouais,
pour essayer. Il y a du monde.
C'est loin.
Il y a du monde.
J'ai réussi à voir Victor Wembanyama quand il joue au Mets.
Ah,
donc,
à voir. Pardon.
J'étais en fil
à la voir, genre, en contact. Oula.
Comment ça? Tu nous as caché des choses, des interviews cachées.
J'étais en file d'attente sur ce match-là.
Ouais. Mais voilà, mais bon, parce que si on le prie, j'ai payé le NBA Paris Game, donc plus rien de mes frais. Sinon, toujours en basket, on avait un derby en National 2 féminine qui opposait donc le club de Lamboisière-Martin à Avrillé. Et malheureusement pour moi, c'est Lamboisière-Martin qui s'impose assez largement face à Avrillé et le club qui est en bonne voie pour rester en tête de la poule B de la National 2. actuellement 9 victoires et une seule défaite. Alors que pour Avrillé, c'est un peu plus compliqué. C'est 8 défaites pour 2 victoires s'ils sont avant-derniers, sachant qu'il y a des clubs espoirs qui ne peuvent pas descendre. Ça semble un peu compliqué pour viser
le match. Et pour le coup, j'étais au match, puisque j'ai pu couvrir le match pour Ouest France.
Alors, tu y mets combien?
De quoi?
Tu le notes sur combien?
Le match était plutôt sympa. C'était un vrai derby. Vraiment une belle intensité de derby. Et puis, à Lamboisière, il y a vraiment toujours une belle ambiance à la salle de la Coudre. Franchement, c'est toujours très sympa. Le club... travaille bien et donc il y a vraiment une grosse animation comme un club pro mais dans une petite salle, donc c'est assez particulier. Et pour le match, on a quand même senti que Lamboisière était au-dessus. Comme tu le dis, elles sont premières, franchement elles peuvent clairement monter viser la montée en N1. Pour Avrillé, c'est compliqué. Pour retracer rapidement la physionomie du match, en fait, les deux équipes se sont toujours un peu tenues de quelques points pendant les trois premiers quart-temps, avec quand même Lamboisière qui menait. Et dans le dernier, Avrillé a complètement explosé. Et donc c'est Lamboisière qui l'a emporté et qui l'a emporté de beaucoup, d'ailleurs. Et pour le coach notamment Fred Cosset qu'on avait reçu dans l'émission, il m'a dit que c'était il y a eu un manque de fraîcheur, et au contraire de Lamboisière où Thomas Bello félicite ses joueuses d'avoir tenu sur un match de décembre où c'est plus compliqué au niveau du physique, et on sent que ça s'est joué là-dessus, les coachs le disent donc, et voilà. Mais c'est vrai que au début du quatrième on s'attend à un gros money time, et finalement c'est on va dire qu'il emporte, mais pour Avrillé, espérons que ce soit pas fini.
Bah oui, on espère pour les deux clubs que la saison va bien se finir. On espère un peu plus de mon côté pour Avrillé quand même. mais voilà, c'est tout pour ce qui est du basket. On va passer au handball. Le SCO qui a à nouveau perdu contre Frontignan, cette fois 27-36. Est-ce que Amaury ou Alex, vous avez pu voir quelque chose du match?
Ouais, c'est un match face à un leader, différence de niveau énorme, j'ai envie de dire, entre les deux équipes. Le SCO, fallait essayer de jouer ce match évidemment, mais il y a quelque chose qui va peut-être se créer avec l'arrivée de Fabien Courtial comme nouveau coach. J'en avais parlé l'autre fois, ancien coach de Saran, si je ne dis pas de bêtises, pendant de nombreuses années, en deuxième division et quelques fois en première avec plusieurs montées.
Il a fait, je crois, 2-3 montées.
C'est
avec
ça. Donc après, il y a qu'une fois où il a réussi à se maintenir en première division, mais c'est un coach qui a de l'expérience, en tout cas pour le SCO. Alors là, c'était très compliqué, défaite de 11 buts. Ils ont toujours été derrière, de toute façon, dès l'entame de match. 3 pertes de balles pour les 4 premiers buts. Ils prennent 4-0 d'entrée. Face au leader, ça pardonne pas. Mais maintenant, il y a un match ce soir, donc en coupe. On en avait parlé la dernière fois où t'étais venu, justement. T'as le score
de... Ouais. Du coup, actuellement, il y a 8-4 pour Limoges. Limoges, qui est quand même une très bonne équipe de première division, qui joue en Europe, je crois, cette année.
Ouais,
donc, franchement, c'est, je dirais pas mission impossible. C'est pour faire un exploit que le SCO joue ce match. Maintenant, voilà, on voit comment démarre ce match. Au vu des tendances des deux équipes et surtout celle du SCO, c'est quand même compliqué d'imaginer le SCO capable de remporter ce match. Peut-être qu'on aura des news pendant l'émission, mais voilà. Non, c'est vrai que j'ai pas pu trop regarder le SCO. J'ai été plus attentif à un autre match ce week-end du SCO aussi. C'était les moins de 17 régions, parce qu'il y a mon cousin qui joue dans cette équipe, et donc voilà. Mais c'est vrai que on sent que pour revenir sur l'équipe professionnelle du SCO, on sent que c'est compliqué, qu'il n'y a pas trop de ressorts à trouver. Il y a eu ces polémiques aussi avec Issam Tej, ce qui s'est passé en interne et tout ça, qui fait que le SCO est dans une vraiment très mauvaise passe, et ce sera à Courtial d'essayer de remobiliser ses troupes pour aller chercher des victoires. Lui, il a dit sur les réseaux du club qu'il pensait que c'était faisable.
J'avais noté justement sa déclaration.
Mais après, il n'a pas l'air non plus, je trouve, dans la vidéo, il n'a pas l'air non plus très emballé. Je pense que voilà. Après, tout est faisable. Comme il dit, le maintien va se jouer à pas beaucoup de victoires. Et je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus pour se maintenir.
Le prochain match est contre Valence, hein, donc qui est 12e sur 15, sachant que en fait si le Slow gagne deux matchs, ils sortent de la zone de relégation.
Ouais,
donc Valence qui est 12e a donc 7 points, Massy 4 points, Besançon 3 points et le Slow 1 point avec un match nul seulement pour l'instant. Mais donc en fait, il suffit déjà d'aller gagner entre guillemets contre Valence et tu reviens à hauteur de Besançon si évidemment Besançon gagne pas de son côté et en fait, t'es plus qu'à un point de Massy qui est juste devant. Et donc, ça peut se jouer avec pas beaucoup de points, c'est ça le seul point
positif, ouais,
positif et d'encouragement qu'on peut
faire. Et alors c'est encore cette année ça va se jouer.
Bah il y a deux descentes en tout cas.
Non mais je veux dire le match il joue quand?
Ah oui, c'est j'ai pu.
Parce que je me dis juste avant les fêtes si tu peux avoir.
On a 14 décembre contre Valence et le 20 décembre contre Nancy. Donc il y a encore deux matchs en 2024.
Donc si tu gagnes contre Valence, il y a peut-être moyen de dans les têtes rebondir et pour aborder 2025
au moins débloquer ce compteur victoire avant la fin de l'année.
Pour, vraiment parce que dans la tête ça doit être assez dur pour les joueurs.
Bah ouais, donc on espère que ça ira pour le SCO. En tout cas, n'hésitez pas à aller les voir à la salle du Hara, ils en ont bien besoin. On va continuer avec une équipe qui gagne cette fois, le SCO Rugby, qui l'a emporté sur le score de 20-16. Une nouvelle victoire qui consolide leur première place au classement de Fédéral 3. Je ne sais pas si peut-être Cédric, tu as un peu suivi cette saison du SCO Rugby?
De loin pour l'instant. Mais non, ils sont toujours dans la continuité de ce qu'ils font. Enfin, on voit que c'est le projet qui a été annoncé quand on les avait reçus, il leur tient toujours à cœur. Enfin, ça continue leur chemin, ça marche bien. Enfin, c'est bien. Ouais. C'est un sport qui est clos un peu plus sur Angers en plus.
Qui prend l'ampleur, ouais. Ça se répercute sur le classement. Un autre sport, un autre club angevin dont je suis sûr que tu suis un peu plus la saison peut-être, c'est les Ducs. Qui ont cependant eux perdu 3-1 contre Grenoble. C'était samedi dernier, il me semble.
Vendredi
dernier. Ouais. Et ils jouent ce soir contre Amiens.
Ils rebondissent à domicile contre Marseille.
Ok.
4-1, c'était dimanche. C'était l'occasion aussi de faire la traditionnelle, le lancer de peluche aussi à l'Ice Park qui a lieu tous les ans.
Dans les tribunes.
Depuis les tribunes, à chaque premier but, ou en tout cas s'il n'y avait pas eu de but en fin de match, enfin avant la fin de match, en fin de match, c'est des peluches qui sont ensuite envoyées dans des associations pour que des enfants puissent avoir des cadeaux de Noël. Fin. Mais ouais, sur un point de vue sportif, bah ça fait actuellement une victoire sur deux. Bon, regarde les deux dernières défaites, elles sont... Une, on va dire, ouais, c'est un peu logique, Grenoble, toujours compliqué.
Toujours fort.
Au Rouen, il y a quelque chose quand même. On perd que 3-0 cette fois-ci. Généralement, on se prenait des caisses un peu plus grosses. Il y a peut-être moyen, parce que Rouen, faut pas oublier que malgré ça, ils sont bien derrière nous. Enfin, bien derrière nous. Attention.
Ils ont
on est deuxième, ils sont cinq ou sixième.
Ouais, c'est vrai qu'on parle aux saisons précédentes, ça leur semble pas. Oui, ils étaient assez largement premiers toute la saison. Là, c'est plus compliqué pour eux au début de saison.
Là, normalement, ça a commencé hein, depuis moins de 5 minutes. Il y a match à Amiens. Quoi.
Toujours 0-0.
Un salaire, oui. Après, le match a peut-être pas encore tout à fait commencé. Hein, souvent. Mais en tout cas, non. Et au niveau du classement. On pourrait finir dans les deuxièmes avant la trêve de, enfin, pour les périodes de fête. Quand on voit derrière, j'avais annoncé, hein, mais c'est pas loin. Il y a Bordeaux qui est un peu là, on va dire
en embuscade.
On les voyait pas forcément là. On attendait plus un Rouen à la rigueur dans le top 3. Donc Rouen qui se retrouve quatrième. Marseille, bah voilà, mine de rien, moi je les ai annoncés quatrième, ils sont cinquième. À un point de Rouen, donc je pense que ces matchs pour aller au play-off, on risque de se régaler, hein. Ça risque d'être serré jusqu'au bout.
Avoir une grosse compétition pour la
hormis Grenoble, la Grenoble là, qui est actuellement à 61 points, Angers qui est à 52, Bordeaux qui est à 48. Il y a quand même des petits écarts qui commencent à se créer, mais Bordeaux peut revenir très vite avec un faux pas d'Angers, donc Non, je pense que le challenge là cette année, il va être là pour se qualifier en play-off. Et j'ai l'impression pour voilà quand j'ai vu les joueurs, il y a quand même encore une âme supplémentaire dans cette équipe cette année avec la suspension de leur gardien, enfin avec tout ce qu'il y a eu autour. Je pense que ça a peut-être fait un déclic et on va voir là on va dire la deuxième saison, partie de la saison avant les playoffs quoi.
Ouais, les playoffs.
Et puis bon, il y a la Coupe de France aussi hein, qui les a boostés donc
évidemment quoi, on espère qu'ils vont aller le plus loin possible parce qu'on sait aussi que les playoffs en général, dans n'importe quel sport, c'est une autre saison.
Ah ben c'est une autre saison, oui.
Qui commence. Donc tout est à refaire. On verra ce que ça peut donner du côté des Ducs. Maintenant, on va finir cette page d'actualité locale avec le football et le SCO qui a donc perdu 3-0 à Raymond Coppa. C'est dommage, Mathéo était en parquage lyonnais, mais il est pas là pour nous en parler ce soir. Ce qu'on a pu ressentir sur le match, je sais pas si vous avez pu avoir des images, des résumés, etc. Mais c'est que le SCO a été largement dominé, très peu d'occasions créées, beaucoup d'occasions subies, et ça se voit dans le score à la fin. Qu'est-ce que Alex?
Ouais. Alors du coup, j'étais au match de d'Avrillé-Lamboisière, oui. Donc j'ai pas pu regarder beaucoup de choses. J'ai vu un peu quand même les images. Le SCO a plutôt je vais parler de Lyon a vraiment je pense maîtrisé son match, a fait parler sa qualité technique. Il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont qui ont fait parler leur technique, qui ont fait parler leur supériorité par rapport à ça et voilà, on a vu je pense l'écart entre deux équipes qui jouent pas du tout dans la même cour. La logique a été plutôt respectée et pour parler quand même un peu Lyon, c'est vrai que on a des joueurs qui sont quand même sur une autre planète en ce moment et ça fait en tant que Lyonnais, ça fait forcément plaisir de les voir comme ça, Mikotaze qui se relance. Et après voilà pour le SCO, je pense que c'est le genre de match que où on n'imagine pas le SCO prendre des points même s'ils ont pris comme contre Marseille, contre Monaco. Ouais. Et de toute façon, on avait dit en début de saison que l'important c'était les matchs face aux équipes de même niveau. Là, pour une fois, donc comme je disais, contrairement à Marseille et Monaco, là, la logique a été pleinement respectée et voilà, une belle victoire de Lyon.
Ouais, Amaury, peut-être que tu veux dire un mot sur le match.
Ouais, non, simplement une équipe qui a perdu face à une équipe meilleure qu'elle ce week-end, hein, comme Alex le disait. Moi, je regrette quand même juste un petit peu le premier but sur le corner. Je trouve qu'il y a un gros saut de concentration quand même sur le corner. Il peut pas se, me rappelle plus qui marque de la tête.
Je
l'ai plus, mais bon, peu importe. Pas Tagliafico. Bon, je sais plus. Pour ma partie, c'est Tagliafico qui marque de la tête.
Ouais, c'est ça.
Et il se retrouve tout seul dans la surface. Je trouve ça quand même qu'il y a une vraie erreur défensive de la part des Angevins. Et sur le dernier but, l'enchaînement est très beau hein, de Mikotadze, mais il doit pas pouvoir passer aussi facilement au milieu de trois personnes avant d'après d'enchaîner sur une superbe frappe.
Le but de Cherki, on sent la défense qui panique.
Et la défense panique, il y a une relance un peu dans l'axe de la tête. C'est derrière, il n'y a pas vraiment de prise. En fait, ça, sur les buts, je trouve que les Angevins doivent pouvoir mieux faire à chaque fois. Après, sur l'ensemble du match, de toute manière, il n'y a pas eu photo. Hein. Ils ont été totalement dominés. Et le résultat, il est 100% logique.
Ouais, ce qui est dommage, moi, je trouve aussi, ce qu'on n'a pas vu jusqu'au ces derniers temps, c'est que même dans les matchs compliqués, ils arrivent à se créer des occasions, etc. Là, à part le coup franc de El Melali qui finit sur le poteau, on n'a pas vu grand chose.
Il y a eu une perte de balle lyonnaise un peu bête sur laquelle ils auraient pu en profiter, mais ils ont frappé sur le gardien. Et à part ça, rien.
Voilà, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent du côté angevin.
Ce qui a fait parler, c'est forcément le tac de Bamberdieng.
Ah. Oui, voilà, le carton jaune annulé.
C'est lunaire.
La VAR appelle l'arbitre pour pouvoir mettre rouge.
Bah oui.
Parce qu'ils peuvent pas appeler pour pouvoir mettre autre chose. Donc, du coup, c'est-à-dire que l'arbitre, en allant voir la VAR pour mettre rouge peut-être, se dit non, il touche la balle, il n'y a même pas carton jaune, et il enlève le jaune.
Du coup ça vient de tomber, mais en gros la fédération vient d'expliquer que il aurait dû avoir rouge, comme ils ont fait la semaine dernière plutôt sur le match Lyon-Nice. Et comme quoi, du coup, ce n'est pas que à l'avantage de Lyon, les erreurs d'arbitrage. C'est lunaire. Après, tant que ça change pas la physionomie du match, je veux pas crier en scandale. Maintenant,
ça change quelque part quand même, hein. Même si Il y a Victor au bout, tu vois, mais tu
ouais,
dois
bah, c'est...
un peu être plus large.
Oui, c'est ça, c'est 4 ou 5.
Et ça, mine de rien, c'est peut-être les 2-3 petits buts qui va te manquer en fin de saison en cas d'égalité. Pour...
J'espère pas, mais en tout cas, ça montre surtout que nos arbitres sont pas bons, comme on le voit depuis le début de la saison, parce que les erreurs d'arbitrage, au-delà des matchs de Lyon, il y en a un peu à tous les matchs. On a de moins en moins bons arbitres. Et ouais, franchement, c'est voilà. Et puis Bamba Dieng, si on peut parler du joueur, il traverse la saison comme un fantôme. On a vu Ibrahim Agnan qui a été intéressant sur ses entrées, et là on relance Bamba Dieng. Il y a pas de but.
De mal.
Je suis déçu de Bamba Dieng parce que sur ses 2 premiers matchs, moi j'avais vu, j'étais au stade sur sa première apparition où il joue que la deuxième mi-temps. C'est l'élément qui relance un petit peu le SCO contre Nice, c'était qu'il est fait avoir un petit peu d'impact dans le jeu. Le match d'après, il est bon, il est buteur sur le match d'après. Et depuis, en fait, derrière, il s'est effacé. Il a même plus été, il était plus titulaire. Non. On le voyait plus. Et là, aujourd'hui, quand on le relance, bah ouais, il est pas au niveau même de ses 2 premiers matchs, alors qu'il était censé s'adapter au début.
Et puis c'est n'importe quoi de faire ce genre de tacle à ce niveau-là. On est à quel moment du match? On est en première mi-temps.
Oui,
je crois qu'il y a que 1-0.
Oui.
C'est dans la 30e minute, il me semble.
Ouais, voilà, donc c'est pas normal quand t'es un club comme ça qui joue déjà son maintien, qui joue face à un gros, qui veut tout faire pour évidemment aller chercher quelque chose. Si tu te joues à 10 contre 11 pendant une heure,
et que lui joue sa place aussi sur le terrain.
En plus,
je pense que ça a pas
dû plaire à son coach, et on verra ce qu'il advient dans les prochaines semaines.
En tout cas, au classement, le SCO ne tombe toujours pas dans les relégables. 15e avec 13 points, à égalité avec Saint-Etienne qui est dans les barrages, et à un point au-dessus de lui de Strasbourg, Nantes et Rennes. Donc il y a évidemment toujours quelque chose à jouer pour ce maintien. Maintenant, dans les journées à venir, ça va être assez compliqué. Rennes, Brest. Brest, c'est assez... Je veux dire, on sait pas trop comment aborder Brest.
En Ligue 1, c'est plus compliqué.
Ouais, c'est ça.
C'est des matchs qui restent prenables, hein, si on regarde le classement, hein, Rennes et Brest.
Oui, Rennes.
Après, c'est justement des matchs où il faut prendre des points, parce que c'est des équipes, Rennes, cette année, pour l'instant, on verra ce qui en viendra sur la suite de saison.
Pas,
mais c'est un concurrent au maintien pour l'instant, Rennes, donc il y a intérêt à aller prendre des points face au Rennais, en plus, dans une sorte de petit derby. Et si d'ailleurs je peux ajouter un petit mot sur le match face à Rennes, il y a le SCO qui offre les places pour les supporters en juin à Rennes, à partir du moment où on se déplace avec les groupes de supporters. Donc il faut payer une adhésion qui est pas très chère. Et du coup, c'est une belle initiative de la part du club. Donc je crois que pour en gros entre 10 et 20 euros, et tu as ton adhésion avec le groupe, et en même temps tu vas à Rennes au match et tu vois le match sans payer ta place. C'est le club qui la prend en charge.
Et du coup, parce qu'on parlait du score en balle un peu plus tôt, il y avait 8-4 quand j'ai annoncé le score tout à l'heure. Il y a eu 10-8 pour le SCO qui a infligé un 6-0 à Limoges. Actuellement, il y a 11-10. On joue la 25e minute de ce 8e de finale de Coupe de France. Donc finalement, affaire à suivre.
Le SCO qui va gagner la Coupe de France et descendre en N1.
Waouh,
on l'annonce. Vous l'aurez entendu ici en premier.
Et vu qu'on est on est dans les résultats en direct, les Ducs,
que de bonnes nouvelles.
Ils ont ouvert le score.
Super, on suivra ça tout au long.
Toi aussi,
dans ce cas-là, Cholet qui affronte Bilbao, 29-27 pour Bilbao. On est au tout début du deuxième quart-temps, c'est très serré. Voilà, on a toutes les informations.
On a toutes les informations, parfait. On va pouvoir passer à la pause musicale avant de tourner un volet international. Et on va rester un peu dans l'univers de la Ligue 1 pour ceux qui l'ont suivi au début des années 2000. On va s'écouter Paoletta de Yanis.
Accélération de Pancrat, toujours Paoletta qui est bien démarqué maintenant. Pancrat l'a vu face à Frédéric Déhu. Paoletta dans la surface d'après. Oh le but exceptionnel encore une fois.
Je fume un camas de canap, bien posé sur le canap. Tu verras jamais ma ganache sur canal. La finesse de R9, Ronnie, je suis un verbal prolique. Genre la calache quand t'es canap. Je suis pas le peurin qui se déprécie. Chacun de mes flots c'est trop précieux. Je me demande pourquoi j'aime pas trop ces messieurs. Pourquoi ils se trouvent sous les essieux. On a le monde, j'sais que t'as le mort, j'sais que t'as le mort. Vu que j'ai la deck 100 mètres de balle main. Tu posais au calme, un week-end à Palma. Bitches là on se verra pas demain. KDM, j'connais les patterns. Concu sous la semelle de mes KTR. Pilar,
Une villa ou deux comme David. J'attends pas qu'on valide. Fais le tour de la ville comme si elle m'appartenait. Je finis la course grave devant. Si je tombe, je me relève. C'est moi la relève de mon département. Des potos font air appartement. Tire et se fonce dans l'appartement. J'ai pas regardé le prix, mais la carte et le bruit. Vu qu'à la queue, ben j'ai ma carte manque. C'est la patate, j'ai sorti la veste. Patate, si jamais j'ai senti l'inverse. T'as streamé, t'as serré, t'as pété ta tête. Pourtant, j'ai même pas sorti un verse. Oh non, il est dur à dire, dur à digérer. Il a vu que j'étais plus habile, il a dû serrer. Et j'ai même pas sorti la tête. YV pour Vendetta. Tout le temps, je me prends la tête. Je me la creuse pour prendre l'étale. T'as pompé tout mon flow. Frérot, c'est pas une lock. Prends-le-moi en l'état. Je pars au quart de tour, donc y a pas de retour. Je fais l'effet d'un chaos létal. Eux, c'est assez léger, je suis assez léger. Je fais la faute comme Paoletta. Il sait même pas quoi faire de ses deux mains, ce bouffon, qu'est-ce qu'il a. Je peux me croiser en C-L-A-R-K-S comme Ghostface qu'il a. Voilà, bis. À la base, je côtoie pas la masse, je te fais pas la bise, je te donne pas la balle. Mon gars piste, le diable, tu dis flip plus fort que la piste du diable. Ma famille, ma caisse, ma body, ma caisse. J'ai la musique, ma ken, je sais bien et à do it again. Ma famille, ma caisse, ma body, ma caisse. J'ai la musique, ma ken, je sais bien et à do it again. Again, 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 again and again. Again, 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 again and again. Again, again, again and again and again. J'ai la musique à Ken. J'ai cette merde à donner again.
Voilà, c'était du Yanis avec son titre Paoletta sur le 101.5 FM de Radio G. On va rester sur la Ligue 1. Finalement, avec Amaury qui nous parlait des résultats de ce week-end.
Et oui, on va donc commencer cette actu internationale par la traditionnelle rubrique Ligue 1, d'habitude présentée par Mathéo, mais on va tenter de faire aussi bien que lui et surtout aussi bien que Lille, qui ouvrait cette journée vendredi contre Brest et qui s'est imposé assez logiquement 3-1. Vendredi toujours, le PSG se déplaçait sur la pelouse d'Auxerre et a été tenu en échec par le promu qui continue sa superbe saison et ses beaux résultats face au cadors du championnat. Un match nul des Parisiens qui a d'ailleurs profité à Monaco et à Marseille qui reviennent à 5 points du leader après leur victoire respective face à Saint-Etienne et Toulouse. Nice s'est également imposé 2-1 face au Havre. De son côté, Lens a dominé logiquement Montpellier 2-0, pendant qu'Angers, on en parlait tout à l'heure, subissait la loi de l'Olympique Lyonnais 3-0 sur son terrain. Et enfin, il y avait un match chaud entre Nantes et Rennes, deux équipes qui avaient besoin de points, et ça a tourné en faveur des Canaries, victoire sur le plus petit des scores, 1-0 pour les Nantais. Autour de la table, est-ce que vous avez pu suivre un petit peu cette journée? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué? Je me tourne vers toi, Alex.
Ce que j'ai pu voir, j'ai regardé un peu l'OM. L'OM qui a fait un bon match, manque quand même d'efficacité sur le devant le but, parce que je pense que ça doit faire plus que 2-0. Et ouais, je pense que notamment. Deux Zerbi préféraient marquer plus de buts. Mais justement, en parlant de Zerbi, je pense qu'il est aussi satisfait que ses joueurs commencent à appréhender vraiment sa tactique, que les joueurs commencent à prendre en confiance. Et c'est intéressant. Et puis, mention spéciale aussi pour Donovan Léon, le gardien d'Auxerre, qui a fait un match complètement dingue contre le PSG. Et il fallait ça pour maintenir le nul à 0-0. Et franchement, chapeau à lui, chapeau à Auxerre aussi. Qui fait quand même une très bonne saison. Et je pense que pour le PSG, ça va devenir, alors compliqué, je sais pas, mais ça met pas la confiance avant le match de ce soir, on en reparlera peut-être après. Mais voilà, une bien bonne journée.
Une bien bonne journée.
Une bien bonne journée de Ligue 1. Hein, voilà. La prochaine peut être un peu plus intéressante, je pense, parce qu'on a des beaux matchs. On a un Lille-Marseille et un PSG-Lyon quand même. Et on suivra ça de près. Et voilà, je pense que c'était une bonne journée.
Marseille, tu disais qu'il n'a pas été efficace. J'ai envie de dire, c'est un peu l'inverse de ce qu'on voyait depuis le début de saison. Quand on regarde leurs expected goals, c'était pas exceptionnel depuis le début de saison, et pourtant ils ont marqué beaucoup de buts. Et dans le jeu, du coup, c'était pas forcément toujours ça. Ce week-end, c'était plutôt l'inverse. Ouais. Très bon jeu, justement, on respectait les principes de Desherbis qu'on avait pas mal vu en Angleterre, mais seulement 2-0 face à Saint-Etienne qui a déjà pris
Saint-Etienne
plus
qui est,
par certaines équipes.
Qui est vraiment au fond du trou. Pour le coup,
ils avaient eu un moment de mieux et
je l'ai plaint presque. Non mais c'est vrai, parce
très
que,
très statique ce week-end.
C'est aujourd'hui, je pense qu'en début de saison, on n'aurait pas dit que Saint-Etienne était. Je trouve que Saint-Etienne est beaucoup plus largué par exemple que le SCO, et je pense qu'en début de saison, ça aurait été difficile de le dire. Et aujourd'hui, bah après c'est pareil avec Montpellier. Montpellier, je pense c'est une catastrophe. Montpellier, moi je les enlève de la course au maintien. Ouais. Peut-être que en disant ça, ils vont allez, se maintenir. Mais honnêtement, 8 points après autant de journées, franchement c'est très très compliqué. Et pourtant ils ont un très bel, enfin pour par rapport à deux équipes, ils ont un bel effectif. Mais je pense que le problème est ailleurs non plus. Mais c'était un autre débat.
Faustin, t'avais pu suivre toi un petit peu ou...
Bah moi, j'ai pas l'abonnement d'Azone, mais j'essaie quand même de regarder à droite à gauche des petites actions, des petits highlights. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est un peu le match Nantes contre Rennes, où Nantes a vraiment fait la bonne
oui.
opération.
Ouais, le but de Saibon.
À la 86e,
incroyable. Plus,
89e, ultra clutch. Et après, c'est un scénario de fou, 86e but refusé pour Rennes. Fallait être là sur les 10 dernières minutes quoi, mais ouais, c'est, je pense que c'est eux qui font peut-être la meilleure opération du week-end.
Ouais. C'est des équipes qui avaient besoin de points, les deux avaient besoin de points
juste donc après le nul au PSG. C'est quand même pas mal. Et par contre Rennes c'est une cata.
Voilà, ouais, on parlait de Saint-Etienne et de Montpellier. Rennes
c'est une cata,
ils ont gagné la semaine passée,
ouais, et puis après mais, Rennes ça vise autre chose, donc c'est ça qui est et ils seront maintenus, ça c'est sûr. Maintenant, avec tous les transferts chers qui ont été faits sur les dernières années, Guiri, Blas, Kalimuendo, et puis même les jeunes là qu'il y a aujourd'hui, c'est quand même relativement grave de voir ce club à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je pense que le salaire d'un Sampaoli est pas mal, et le résultat, il est assez triste. Ouais.
En tout cas, Rennes ne jouera pas la Ligue des Champions, mais c'est le cas pour quatre autres clubs français ce week-end, comme toutes les semaines de Ligue des Champions depuis le début de l'année. Et donc, on a le PSG qui est en déplacement du côté de Salzbourg, un match hyper important dans la course à la qualification pour le PSG, qui doit maintenant viser d'être dans les 24 premiers. C'est le cas pour plusieurs gros clubs, le Real Madrid est aussi pas forcément en très bonne posture pour l'instant. Le PSG qui doit absolument gagner du côté de Salzbourg.
Bah ouais, là c'est clair. Ils partent. S'ils n'ont pas une victoire ce soir, j'ai pas envie de dire qu'ils sont condamnés, mais la sentence se rapproche de plus en plus.
Ah ouais, non, mais là, s'il n'y a pas victoire, surtout qu'apparemment Salzbourg est vraiment diminué. Donc on parle de Salzbourg et en plus ils sont pas dans un bon. Dans une bonne période et franchement franchement s'ils gagnent pas ce soir, c'est très très grave. Je pense qu'il faut tout de suite arrêter le projet des jeunes joueurs et dès l'hiver faut raquer pour acheter une équipe All-Star quoi. Parce que ce nouveau projet justement anti-bling-bling où on va prendre des jeunes à fort potentiel, qui ce projet-là aujourd'hui, il marche pas pour l'instant et clairement si ça perd ce soir ou ça gagne pas ce soir, là, il faut mettre les bouchées doubles. Parce qu'en plus, l'avantage d'avoir donc 8 matchs, c'est que du coup, tu pourras recruter avant de recevoir City et d'aller à Stuttgart. Ouais. Donc, vraiment, là-dessus, la politique anti-star, entre guillemets. Et en plus, quand on sait aussi que finalement, les ceux qui sont pas considérés comme des stars font quand même certains caprices et sortent des choses dans la presse pour se plaindre alors qu'ils sont pas bons sur le terrain. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui, je dirais pas sont surcotés, mais qui aujourd'hui sont beaucoup responsables de la situation. Luis Enrique aussi a beaucoup de tort, mais n'oublions pas les joueurs qui, pour beaucoup, ont un rendement qui est vraiment en dessous de la moyenne. Et vraiment, si ce soir ça ne gagne pas, c'est très grave. C'est très grave.
Professionnel énorme.
Salzbourg, on le rappelle, cette saison en Ligue des Champions, c'est défaite 4-0 contre Brest, défaite 2-0 contre le Dynamo Zagreb. Ensuite, victoire quand même contre Feyenoord qui avait pris un carton rouge durant ce match. Et ensuite, j'ai vu défaite 5-0 contre Leverkusen. Donc c'est vraiment une catastrophique aussi cette saison en Ligue des Champions pour Salzbourg, qui n'est plus le Salzbourg d'il y a 2-3 ans qu'on a connu, qui, alors, sans être un grand d'Europe, pouvait sur certains matchs accrocher n'importe qui. On espère pour le PSG ce soir qu'ils vont pouvoir se relancer, au moins faire vivre un match contre City qui soit haletant en janvier.
Je pense que City va recruter aussi.
Ah bah,
ils ont le budget et puis ils ont aussi peut-être des besoins. Donc franchement,
on a deux clubs City.
Si on avait un City PSG aujourd'hui, je sais pas.
Ça sentirait la poudre, hein. Oui, bien sûr.
Mais
Mais oui, non, c'est clair que le PSG se doit de remporter ce match, et pour moi avec la manière, parce que Salzbourg, apparemment, il y a pas mal d'absents défense centrale, il y a l'attaquant titulaire Karim Konaté qui est pas là, et si tu gagnes pas de plus 3, plus 4, et en sachant que le PSG aura pas beaucoup de points à la fin et que du coup le goal average va compter, là il faut la manière. Il faut la manière pour le PSG.
Autre que,
je sais pas ce qu'en pense Cédric.
Ouais.
Tout est possible maintenant avec Paris. Hein.
Tu te désintéresses du PSG, ça y est, ça t'a dégoûté.
Ouais, franchement, leur match, j'ai du mal à regarder maintenant, même en Champions, quoi. Enfin,
ouais.
T'as l'impression qu'il y a pas, ils s'investissent pas, je sais pas, c'est bizarre. Tu vois deux, trois joueurs.
Le projet est mou, quoi.
Ouais, c'est quand même fou. Mais après, moi j'ai l'impression que c'est lié à ce format-là aussi de cette compétition, parce que tu regardes bizarrement tous les gros clubs, on va dire sur les trois premiers matchs, ça a un petit peu joué mou, ça a fait l'impasse. Tu regardes par exemple un Bayern par contre qui est parti cash, derrière il s'est rétamé, il est revenu, enfin c'est, j'ai l'impression que ce format-là, et tant mieux d'un côté, c'est plus on va dire aux équipes de milieu de tableau d'habitude.
Je trouve aussi c'est intéressant.
Ça leur profite. Enfin,
pour l'instant, en tout
verra,
cas.
Voilà ça, on verra sur le fil des années aussi.
Puis surtout, il reste encore du coup techniquement 3 journées, donc tout peut se passer. Mais c'est vrai que pour l'instant, on pouvait penser l'inverse. Ce sera peut-être aussi plus dans la file de la saison, parce que quand on va arriver après 8 matchs de poule jouée, un barrage et des 8e, peut-être qu'il y aura des équipes inférieures qui vont peut-être faire éliminer ou choses comme ça.
Hormis Liverpool, j'ai l'impression que
l'Inter, le Barça
qui est pas si mal.
Le Barça, c'était quand même compliqué avant
en Ligue des Champions, le Barça, excepté Monaco où ils prennent un carton rouge d'entrée, ils sont invaincus et.
Par contre, là où Cédric a raison, c'est qu'on retrouve 3 clubs qui sont parmi les plus riches du monde, donc le PSG, City et le Bayern, qui sont pas dans le top 8, et je rajoute le Real.
Le Real est 24e.
Et le Real qui est qu'à 24e, donc ça fait 4 clubs majeurs que je pense au début de la compétition on voit comme favoris qui sont très bas, donc ça c'est vrai que ça met du suspense. Maintenant c'est vrai que ça rajoute des matchs. Donc la cadence des joueurs, c'est toujours une question aussi.
On va voir si ce système de play-off, ça va un peu booster ceux qui sont à la bourre.
En tout cas,
je pense que cette année, on va avoir des surprises. Je pense qu'il y a pas mal de gros au final qui vont peut-être tomber.
Quand Brest va gagner la Ligue des Champions, on va vraiment être surpris.
Et par contre, l'année prochaine, je pense que ça va être joué différemment.
Ouais, les grosses équipes vont appréhender les matchs différemment, ils vont savoir mieux savoir
comment
jouer. Mais
là, par exemple, tu vois, c'est, on va dire, 3 niveaux en dessous, mais Chelsea, qui est en train de construire son double projet, championnat plus coupe, qui s'est donné, ils ont le budget déjà de base, mais qui arrive à construire 2 équipes.
Quasiment,
et qui arrive en fait à tourner.
Après, l'enjeu est peut-être moindre sur la Conference League quand même. Parce que ils mettraient les meilleurs joueurs.
Ça veut dire s'ils arrivent à le faire en conférence, avec leur budget, on va pas dire illimité, ils seraient capables de faire la même chose.
Ils ont une largeur d'effectif et de concurrence qui est infinie presque.
La photo d'équipe
est très grande.
C'est pour ça, tu vois, c'est peut-être une petite coupe, mais en termes de management et de préparation, en tout cas pour l'instant, ils y vont droit. Au vu de leur saison, ça peut être une réflexion dans les années à voir pour certains clubs qui ont les moyens de doser à ce niveau-là. Quoi.
Oui, les autres clubs français qui jouent en Ligue des Champions, on a Brest qui affronte le PSV, Lille qui reçoit Sturm Graz et Monaco qui se déplace à Arsenal. Est-ce que vous voulez parler rapidement de ces matchs-là, les garçons?
Monaco qui va être le plus dur, je pense.
Ah bah oui, là, c'est...
Monaco Arsenal sur papier.
Un match qui donne envie quand même à voir.
Ouais, par contre, oui.
Lille contre qui déjà Sturm Graz. Bon, faut gagner 3 points pour Lille, parce que là il y a quelque chose à faire. Ils ont quand même gagné 6 points contre l'Atlético, le Real, donc faut transformer l'essai, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bonifier ça avec pourquoi pas un top 8. Pour Brest, PSV Eindhoven, c'est peut-être jouable pour aller chercher un nul. Maintenant, tout est possible avec Brest, on le sait. Et pour Monaco, bah écoute, ça, je pense que ça va être un match intéressant.
Monaco est capable, je pense, sur un match.
Ouais. Bah ils ont battu quand même Arsenal, le Barça, même s'ils ont été un moins.
Arsenal sans courant alternatif.
Oui, c'est ça. Arsenal qui est bien sans être non plus excellentissime. Ouais, à voir.
Faudra un beau match.
Ouais, ce sera un beau match. Et c'est vrai que la soirée de demain, il y a pas mal de gros chocs.
Bah, la victoire entre les deux, enfin, celui qui va prendre l'avantage en termes de victoire entre Arsenal et Monaco, ça lui offre, ouais, une
place dans le top
8, sûr, voilà, oui.
Ils sont 7e et 8e pour l'instant, donc,
Égalité de points, ça joue au goal average. Voilà.
Dans les autres matchs de la soirée, on a eu deux matchs qui ont déjà été joués. Liverpool qui se déplaçait à Riron et qui a gagné 1-0. Et un match nul 0-0 entre Dynamo Zagreb et les Celtics. Le Celtic, j'ai plus... Voilà, Glasgow. Ça m'échappait. On va enchaîner avec ce qui est peut-être le club français de ce début de saison, tout sport confondu. Je parle évidemment du Paris Basket, leader de l'Euroleague à l'heure où on se parle. Alors qu'il s'agit de la première saison du club dans la compétition. Dernièrement, on a eu la victoire obtenue sur le parquet de l'Olympiakos ou encore en championnat contre Monaco après pourtant avoir été mené de 19 points dans le troisième quart-temps. Cette équipe amène un vrai vent de fraîcheur, j'ai envie de dire, un basket qui est beau à regarder et qui permet au club d'être invaincu sur la scène européenne depuis maintenant 11 matchs de suite. Faustin, on en a parlé rapidement dans notre émission Twitch NBA jeudi dernier. Mais qu'est-ce qu'on pense encore une fois de ce super début de saison?
Bah c'est magnifique. J'ai pas les mots pour décrire ce début de saison, surtout en Euroleague, même si en championnat c'est évidemment excellent. On a une autre équipe qui s'en sort mieux. Mais ouais, en Euroleague, du coup, c'est qu'une seule défaite. C'était contre le Bayern, il me semble, ouais. De Munich. Et puis.
Mi-octobre.
Ouais, voilà, c'était il y a longtemps. Hein. On se disait à ce moment-là, bon, bah, normal, ils sont 3 victoires, 1 défaite. Ils s'en sortent bien. Et puis là, après, la série de 11 victoires contre pas n'importe qui, quoi, contre l'Olympiakos, ils ont tapé le Pana aussi, il me semble, même Monaco, ils ont battu
11 victoires,
Euroleague.
11 victoires en Euroleague, t'as quand même battu beaucoup de monde.
Bah ouais, ça, Barcelone y est passé. Enfin bref, il y a vraiment tous les gros clubs européens. Peut-être que c'est des clubs qui les ont aussi sous-estimés. J'imagine.
Je pense que maintenant ça l'est plus, hein, l'Olympiakos. Attends, oui. Après ils étaient à 9 victoires de suite, ils ont pas dû se dire on est sous-estime.
Ouais, mais sur le parquet au début, c'est possible quand même.
Ah oui, sur les premiers matchs, c'est sûr. Mais sur le parquet, l'Olympiakos, c'est quand même magnifique. Ouais, avec pourtant Evan Fournier qui a été très très bon sur ce match-là, faut le dire quand même. Et donc voilà, le prochain rendez-vous, ce sera vendredi face à l'ASVEL en Euroleague. Donc duel entre clubs français pour le prochain match de Paris. Lui, son prochain rendez-vous, ce sera pas du côté de Villeurbanne et du basket, mais du côté de l'Italie et de Ferrari. Et oui, vous l'avez compris, je vais vous parler de Lewis Hamilton, qui disputait ce week-end son dernier Grand Prix avec Mercedes. 11 ans d'une belle histoire, 246 courses, 84 victoires, et surtout 6 de ses 7 titres de champion du monde. Que vous soyez fan ou non du pilote, aujourd'hui, tout le monde est obligé de s'incliner devant la domination qui a été la sienne sur cette période. Et maintenant, place à une nouvelle histoire du côté des Rouges de Ferrari, l'écurie par laquelle tous les plus grands sont passés, pour peut-être, pourquoi pas, aller chercher ce 8e titre qui serait historique pour le Britannique et qui deviendrait alors le pilote le plus titré de l'histoire. Cédric, je me tourne vers toi. Est-ce que, pour toi déjà, c'est possible qu'il aille chercher un 8e titre avec Ferrari? Et deuxième question, qu'est-ce que tu retiens finalement de son passage ces 11 années chez Mercedes?
Déjà son dernier dépassement. Son dernier dépassement, il est d'anthologie, hein. Franchement, il a fait vibrer tout le monde, hein. Il a été là chercher, mais il y avait plus d'enjeu, hein. Bon, après, son coéquipier, voilà, il force pas non plus, mais il se laisse pas faire. On sent que ça a pas été une consigne. Bon, ils ont eu la consigne. Bon, les gars, mettez-vous pas en l'air.
Oui, bah, pour la dernière de
Hamilton. Mais voilà, il fait une remontée dans le dernier tour. Il le prend sur la ligne. Enfin, c'était magnifique. Qu'est-ce que je vais retenir de lui? Bah, deux choses, c'est que quand ça va pas, c'est ce qu'on appellerait un crybaby. On l'a souvent entendu pester quand ça marchait pas. Il y a des époques, d'accord, c'était la voiture. Sur les dernières saisons, je pense qu'il a fait trop de saisons finalement dans son écurie. Et sur les deux dernières saisons, on l'a senti, hein, c'était vachement plus dur pour lui de développer la voiture. Enfin, il y a une saison où on sent qu'il est largement en dessous. Il arrive encore à se mettre au service, à développer la voiture. La saison d'après, les débuts sont compliqués. Et derrière, on sent qu'il a lâché. Et là, la fin de la saison, on le sentait, il était déjà plus...
Il y a peut-être la tête chez Ferrari déjà, peut-être.
Il y avait la tête, il y avait la voiture surtout qui était vraiment pas fait pour lui cette année. Et il a douté, hein. Les deux derniers Grands Prix, il savait pas trop s'il allait les faire. Faut pas oublier que le Grand Prix d'avant, il est à deux doigts d'abandonner. Alors que c'est rare qu'il prenne une décision comme ça. Quand j'ai vu ça, moi je me suis posé la question s'il allait faire le dernier Grand Prix du coup. Justement pour se mettre peut-être dans sa bulle. Mais bon, je le voyais mal dire au revoir comme ça et sans revenir. Et puis bon, quand on voit que certains pilotes ont été prévus de...
Je l'ai vu, il est venu habillé en rouge, je crois.
Oui, il a fait tout en blanc le premier jour, ouais. Blanc et rouge le deuxième sur le outfit et rouge bien. Complètement le troisième. La transition, lui qui adore la mode, et, etc.
Ouais, mais après ce Grand Prix-là, on a eu quand même de l'action, c'était quand même intéressant. Avec les news qu'on avait eu en début de semaine, on savait que Leclerc allait prendre 10 places de pénalité. Il y a ses essais qualificatifs où il se fait déclasser, donc du coup il peut pas aller en Q3. On a l'impression que le titre ça y a été joué. Et finalement, ben ça a pas été si simple pour McLaren d'aller chercher ce titre constructeur 28 ans après. Avec des performances, je crois que c'est Piastri qui finit
sixième
et qui en termes de sur toute la saison, enfin, a fait quasiment zéro. Il marque toujours au moins un point. Enfin, c'est un peu foufou les stats de McLaren. Avoue que j'aurais préféré quand même que ce soit Ferrari. Je trouve que Ferrari, en termes de progression sur toute la saison, il méritait. McLaren, ça c'est souvent avec les grandes écuries, il y a toujours ce petit côté, on saura jamais trop par rapport à leurs ailerons arrière avec le fameux DRS supplémentaire. Ça fait partie de la légende de McLaren, ça fait partie de la légende aussi de Ferrari, d'avoir des petites...
Red Bull l'a eu aussi. Fois les dominants, on trouve quelque chose
c'est
à dire
ça,
sur la voiture.
En tout cas, ce que je retiens, c'est que Red Bull c'est auto-saboté cette année par rapport à ça.
Pérez.
Ouais, mais c'est Pérez, mais t'aurais mis n'importe qui, je pense que ça aurait été la même chose. Après. On va voir l'année prochaine si ça va réagir, s'ils vont aller chercher le titre. Pour moi, je pense que... Il cherche juste le titre avec Max. Donc, hâte quand même d'être à la prochaine saison, parce que mine de rien, McLaren vont être attendus dès le premier Grand Prix. Mm-hmm. Ferrari, forcément, est-ce que les deux vont pouvoir cohabiter? Sur les premières courses, j'ai envie de dire oui.
On a vu que Leclerc avec Sainz sur la fin, ça pouvait être compliqué.
Ça pouvait être compliqué, mais quand
les petites radios ouvertes alors que Charles Leclerc n'est pas au courant et on entend tout ce qu'il dit.
Et puis bon, Hamilton a quand même son ego. Charles a quand même son ego, même si on a tendance à lui dire tu t'écrases et puis tu parles pas trop. Ça peut être un duo qui peut être explosif dans le bon comme dans le mauvais sens. Donc non, ça va être, je pense, le petit intérêt du début de la saison. Et puis les petits nouveaux qui vont arriver, on va voir ce que ça donne. En tout cas, chez Alpine, bon, on parlera pas du départ manqué d'Ocon, mais bon, c'est ça quand c'est plus la politique qui domine que le sportif.
Complètement sur la fin.
Et on a vu déjà Sainz rouler avec sa nouvelle voiture. Ça a l'air de tenir la route. Donc, hâte dans à peu près 70 jours pour les essais hivernaux.
Découverte des voitures.
Ouais, alors cette année, tu vois, ça me botte pas vu que ça va être une présentation
tout
générale.
Ouais. Ouais, tout en même temps.
Bon, Ferrari a annoncé, de toute façon, ce sera pas les vraies voitures.
Ouais.
Ils vont faire leur événement à côté. Je trouve ça plus sympa quand même que chaque écurie présente... ces voitures, là, bon, on dit oui, c'est pour l'anniversaire de la FIA, tout ça, enfin.
De toute manière, à chaque fois, finalement, ce qu'on regarde, c'est finalement un peu l'extérieur de la voiture,
oui.
Parce que les performances et tout, de toute manière, entre ce qui est présenté à ce moment-là et ce qui est au premier Grand Prix et ce qui est là au cinquième, c'est jamais pareil, donc.
Mais hâte quand même de voir cette saison, en plus, qui va être hybride, parce que ce sera la dernière, mais on pourra peut-être voir déjà des pistes pour la saison d'après et qui, là, sera vraiment une saison de nouveautés, quoi.
Complètement. On va pouvoir passer sur du handball. Alex, tu étais présent. On va pouvoir parler de l'équipe de France féminine. En ce moment, c'est l'Euro de handball féminin, si vous n'êtes pas au courant. Et les Françaises ont fait un super début, même une très grande partie de ce championnat d'Europe. Toujours invaincu, première phase de poule, 3 victoires en 3 matchs. Deuxième phase de poule, 4 victoires en 4 matchs. La dernière, c'était tout à l'heure face à la Hongrie pour être première de la poule et donc certainement pouvoir éviter la Norvège en demi-finale. La Norvège qui nous avait battu en finale olympique, on s'en rappelle, le grand adversaire des Bleus ces dernières années. Donc des Françaises qu'on retrouvera vendredi en demi-finale. Alors j'ai pas encore l'adversaire, ce sera certainement le Danemark, j'ai vu, ou les Pays-Bas.
C'est ça.
Mais qu'est-ce qu'on pense de cette équipe et jusqu'où on les voit aller, Alex?
Au moins jusqu'en finale, je pense que c'est comme je disais un peu avant l'émission, ça va être la finale comme sur je crois les 3 ou 4 dernières compétitions internationales de handball féminin. Un tournoi au presque parfait parce que il y a 100% victoire et puis parce que les joueuses sont vraiment au diapason. On a 2 gardiennes qui sont surtout oui. Laura Glosier qui fait un tournoi qui est quand même monstrueux. On a des joueuses qui sont là, qui sont très fortes. Estelle Zemingo qui est toujours au sommet de son art. Des très bonnes ailières aussi. Tout se passe très très bien pour l'équipe de France avec ce nouveau coach Gardiou. Et franchement oui, on les voit aller en finale et après en finale, je pense que c'est 50-50 avec la Norvège. Gros tournoi pour l'équipe de France, ça fait plutôt plaisir de les voir comme ça. Elles gèrent bien leurs rencontres. Franchement, j'ai presque envie de dire, il y a rien à dire. Oui. Quoi. C'est,
bah, moi, je parlais mardi dernier de la défense. Évidemment, on parle des gardiennes. Oui, évidemment, ça, oui. Les gardiennes sont très très fortes depuis le début. Mais une gardienne de hand sans défense, on le sait, c'est très compliqué. La défense des Françaises, le nombre de buts marqués sur attaque rapide avec des interceptions, des pertes de balles forcées, c'est presque le point positif de cette équipe de France. En attaque placée, on est bon sans plus. On a quelques échecs au tir qu'on a peut-être pas des fois qu'il faudra.
Horacek
qui est en difficulté avec son tir. J'ai vu une interview où elle dit ça va rentrer. Donc elle se fait confiance, on lui fait confiance et elle saura marquer les buts.
Et 7 mètres, ça rentre pour l'instant. J'ai envie de dire rendez-vous dimanche. Quasiment dimanche, même s'il y a vendredi comme il y a quand même la demi-finale.
Rendez-vous immanquable déjà vendredi et dimanche. Peu importe le résultat, il y aura un match à regarder, mais on espère bien que ce sera le dernier avec face certainement une équipe de Norvège si elle aussi de son côté se saborde pas avant dimanche. On va pouvoir, juste avant de se quitter, finir par du biathlon. J'avais aussi envie de vous en parler parce que je vous en avais fait la promo dernièrement en me disant qu'il fallait regarder ce sport. Déjà, c'était gratuit. Et ça, c'est fait partie des rares sports qu'on peut voir 100% gratuitement. Et en plus que les Français performaient, eh bien, je vous avais pas menti. La semaine dernière avait lieu la première étape de la Coupe du Monde et on a pu voir des Français en forme. Pour la faire rapide, 4 relais, 4 podiums, avec en prime une victoire sur le relais homme. Et puis en individuel, des victoires pour Emilien Jacquelin en sprint, pour Eric Perrault sur la mass start avec Quentin Fillon-Maillet juste derrière lui, mais aussi pour Lou Jamonneau sur l'individuel femme. Donc en fait, tous les Français qui performent, par moment ils sont bien, par moment ils sont moins bien, mais à chaque fois il y en a un qui joue aux avant-postes. Donc des émotions, des médailles dès ce début de saison, qui va d'ailleurs reprendre dès vendredi du côté de Orfilsen en Autriche, avant de venir du côté du Grand Bornand et de Annecy le 19 décembre en France. Est-ce que vous avez pu suivre un petit peu les garçons ou pas?
Moi j'aime bien regarder le biathlon. Comme je l'avais dit, quand on avait parlé avec mon père sur le canapé l'après-midi pour s'endormir dessus un peu, mais c'est surtout lui qui s'endort. Bref, mais oui, c'était...
Or, ça, on veut des preuves. Hein. C'est facile d'accuser, monsieur.
ça fait longtemps que le biathlon français performe et continue de performer cette année. Avec en plus, là, j'ai vu surtout le premier relais masculin. C'était quasiment un sans faute au tir, soit couché ou debout, c'était vraiment joli à voir.
Et quand on se dit qu'on fait podium en plus sur les autres relais, on fait deuxième à chaque fois. C'est premier ou deuxième.
Il faudrait vérifier maintenant que les classements, les titres ont été corrigés, voir combien de titres on a loupé, mais.
Avec le scandale de dopage qu'il y a eu.
C'est ça, oui. Ouais. Puis depuis Poiret et tout ça, enfin. En termes de domination.
De toute manière, c'est un match France-Norvège depuis des années, avec Björn Dahlen avant Martin Fourcade, après Martin Fourcade qui a dominé. Et derrière, en fait, finalement, maintenant, il n'y a plus une domination d'une personne, mais c'est plein d'athlètes, qu'ils soient français ou norvégiens, qui dominent. Par moment, des Allemands, des Suédois qui arrivent, mais voilà, du bien beau biathlon qu'on peut suivre tous les week-ends, et c'est dès ce week-end, nous avons des nouvelles courses.
Et voilà, on continuera d'en parler les semaines prochaines. On vous laisse avec la suite des programmes. Tout de suite, vous retrouverez Imaginaire sur le 101.5 FM. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.